Bonjour la belle-mère. Hello Sylvia, God bless you. Bonjour Jean-Gilbert, bonjour aux amis. J'espère que vous allez bien. J'approche un peu le micro. Bonjour Marie-André. Bonjour Farley, si elle est avec toi. Bonjour à mon père, à ma mère. À Marlène et à Leandro, s'ils sont avec vous. Bonjour Marie-Marthe. Cette semaine, es-tu encore chez Evans? Ou de retour sur la rive nord? Merci Marie-André. Bonjour à la sœur Marta Lucia. Bonjour Yolène. Alors, il est 8h22, encore 7-8 minutes avant qu'on ne commence. Salut Leandro. Un peu fatigué, mais ça va. Et toi, comment vas-tu? On ne t'a pas vu ce week-end. J'espère que tu as eu du bon temps. Bonjour Rachel, bonjour aux sœurs qui sont avec toi, la sœur Ocilia, la sœur Chantal, la sœur Mona, soyez bénis. Merci Yolène, merci Marta Lucia, merci Rachel. Bonjour Denise, bonjour Gérard, soyez bénis vous aussi. Bon, on s'excuse, hier il y avait des problématiques logistiques. Mon réseau, pour X raisons, semble assez fragile ces derniers temps. Pourtant, c'est supposé être le meilleur réseau au Québec. Mais là, on ne sait pas. Il n'y a pas de travaux puisque c'est les vacances de la construction, donc tout est calme. Ça devrait aller mieux, mais là, bizarrement, il y a le système planté hier. Là, pourquoi je n'étais pas en ligne. Bonjour Pascal. Merci la belle-mère. Et effectivement, c'est ce que Marlène m'avait dit. Qu'il était avec sa sœur. Non, vous avez encore 6 minutes, environ 5-6 minutes, pour aller vous chercher votre café. Votre thé ou votre jus d'orange, je ne sais pas trop. Merci Pascal. Alors Marie-Marthe, on salue Evans, sa conjointe, et bébé. Ce qui fait que tu es encore sur la rive sud aujourd'hui. Aujourd'hui, journée ensoleillée. Il va faire beau, il va faire chaud. Pendant les prochains jours, je pense qu'on parle d'un 32 ou 33 dans les prochains jours, sans compter le facteur humidex. Donc, ça va être de grosses journées où la climatisation va être de mise pour ceux qui l'ont du moins. Bonjour Julie. Bien des choses à votre époux. On vous rappelle qu'il y a deux rendez-vous aujourd'hui. Bonjour Guy, sois béni. Donc on a notre rendez-vous qui va débuter dans 4 minutes environ. Donc notre bénédiction matinale. Puis on a rendez-vous ce soir pour l'étude biblique. Bien entendu, ce rendez-vous pour l'étude biblique est tout d'abord en présentiel, où on espère que vous serez plusieurs à être là sur place à l'église. Mais de surcroît à cela, bon, bien entendu, tout est disponible sur Internet. Louise, Michel, bonjour. Merci Julie. Farley, tu es là. Je pensais que tu étais à ton camp. Donc, bien content de t'avoir avec nous aujourd'hui, Farley. Sois béni. Là, vous entendez Néma qui est en train de voir. Le son préféré de la belle-mère. Là, on avait salué tout à l'heure Jean-Gilbert Rosani. Maintenant, on voit Rosani qui apparaît sur son propre compte. Donc, rebonjour. Merci, Louise. Alors, pour ceux qui veulent déjà ouvrir leur Bible, vous rappelez que c'est dans 2 Timothée au chapitre 4. Le passage qu'on étudie, en fait, depuis, si je ne m'abuse, 4 ou 5 semaines. 5 semaines. 4 pour sûr, 5 peut-être. Allez, je regarde. Alors, 1, 2, 3... 4 au niveau des bénédictions matinales, mais il y a déjà eu 5 prédications sur le passage. Et une sixième ce dimanche qui vient. Sylvia, please greet Pastor David for us if he's around. Tell him that the good weather... Well, his definition of good weather is upon us in Montreal too. So, hope he enjoys his summer. And we're praying for God to bless both of you in Gatineau or in, I forgot the name of the other town. Well, on Outaouais. Bonjour Manon. Bonjour, Pasteur André, s'il est avec toi. Donc cette semaine, on parle de bien s'équiper, de ce qu'il nous faut nous entourer. Donc, on rappelle deux rendez-vous aujourd'hui, ce matin avec la bénédiction matinale et ce soir à 19h avec l'étude biblique qui sera donnée en présentiel depuis l'église. Wakefield, that's it. That's it. I don't know why I keep on forgetting the name Wakefield. I have to find a way to remember it. Bonjour Manon. Merci pour tes salutations, bénédiction sur toi et puis sur le pasteur André aussi. Aneris, mi amiga, que Dios me la bendiga ricamente. Saludos a tu esposo también. Une minute et on débute. Immaculée, bonjour, bonjour, comment vas-tu? Sois bénie, ma sœur. Babette, Andreas, bonjour, bonjour la petite famille. Bonjour à tous ceux qui nous regardent aussi en différé, donc après coup. Merci à tous ceux, et puis bonjour à tous ceux qui nous regardent via les pages des moteurs de recherche directement depuis. Comme on avait Google ou autres moteurs de recherche, vos noms n'apparaissent pas, mais on sait que plusieurs vous utilisez ce moyen-là pour vous connecter. Myriam, Donald, bonjour. Alors prions et on débute. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous donnes. Merci pour cette occasion, encore ce matin, d'étudier ta parole, d'entendre ta voix et de recevoir ce que tu as préparé pour nous d'éternité. Je te demande Seigneur d'ouvrir notre intelligence, notre connaissance, notre capacité à recevoir ta parole. Et on prie que celle-ci, Seigneur, ta parole, puisse s'enraciner en nous profondément, qu'elle puisse croître et porter un fruit qui te sera agréable de ce côté-ci du ciel comme lorsque nous serons dans l'éternité. Je te demande de bénir chacune des personnes qui sont connectées ce matin, mais aussi toutes celles qui entendront cet enregistrement, ce partage dans les heures ou dans les jours ou dans l'avenir. Alors que ta grâce nous soit accordée à tous et chacun et que ta douce présence soit manifeste dans la vie des uns et des autres. Nous t'avons prié dans le précieux et glorieux nom de Jésus. Amen. Alors je relis pour vous notre passage des 5 dernières semaines, 2 Timothée 4, du verset 6 au verset 22. Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. Crescence est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychique à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas, chez Carpus, et les livres sur tous les parchemins. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. J'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Salut Prisca et Aquilas et la famille d'Onésiphore. Éraste est resté à Corinthe et j'ai laissé Trophée malade à Milet. Tâche de venir avant l'hiver. Eubulus, Pudens, Linus, Claudia et tous les frères te saluent. Que le Seigneur soit avec ton esprit et que la grâce soit avec vous. Alors que Dieu bénisse sa parole ce matin. On s'excuse si vous entendez un peu de bruit. C'est Néma qui frappe au sol parce qu'elle veut de l'attention. Alors, on se rappelle que cette semaine, on étudie plutôt les choses qui vont être particulièrement nécessaires pour Paul. Il va, oui, dire à Timothée d'apporter quelques items vers lui, son manteau, des livres et des parchemins, particulièrement dans le verset 13. Mais par contre, on va voir dans le verset 17 et dans les versets 22 qu'il y a des choses uniques de la part du Seigneur qu'il veut pour lui-même ou qu'il prescrit à Timothée et à ceux qui sont avec lui. Lorsqu'on a étudié la question du manteau il y a 2 jours, puisqu'on n'était pas en onde, On a vu que c'était dans le but tout particulier de se préparer aux tempêtes, le manteau qu'il demandait à Timothée de récupérer chez Carpus à Troas. Ce n'était pas un manteau d'hiver, ce n'était pas un manteau pour les galas, ce n'était pas un manteau d'un usage commun. C'était un manteau, et le mot qu'on utilise est particulièrement instructif lorsqu'on revient à la question de l'étymologie grecque. C'est un mot qui nous parle d'un manteau, une genre de cape qu'on pouvait utiliser. Ou un poncho, donc une espèce de toile avec un trou en plein centre dans lequel on passait la tête et qu'on utilisait en temps de pluie, en temps de tempête. Dès qu'on utilisait le terme phailonès, qu'on a étudié donc il y a 2 jours, c'était concernant un manteau approprié pour les temps de tempête. Alors pour nous, on s'est dit qu'il est important, à l'instar de Paul, de se préparer aussi pour les tempêtes. Trop de chrétiens ne veulent pas parler de tempêtes, ne veulent pas parler de moments difficiles, de façon très superstitieuse, tout simplement parce qu'ils se disent, si je parle de la maladie va me tomber dessus. Si je parle de la pauvreté va me tomber dessus. Si je parle de la mort va me tomber dessus. Si je parle de problématiques familiales, assurément, il va en survenir dans ma vie. Ça, on appelle de la superstition, et c'est tout à fait contraire à la foi. Donc, pour nous, nous ne sommes pas tributaires de la superstition, on est tributaires de notre foi, de notre confiance que nous posons, que nous plaçons en Christ. Voilà pourquoi Paul va dire, moi, je veux me préparer pour la tempête parce que je sais qu'elle va arriver, je sais qu'elle peut arriver. Christ même va nous dire, et la parole de Dieu nous le dit, préparez-vous ou armez-vous plutôt de la pensée de souffrir. Ça ne veut pas dire que la souffrance va venir, mais ça veut dire qu'il se pourrait. Pourquoi? Parce qu'on est humain, parce qu'on vit sur cette terre, que nous passions par des moments de souffrance, que ce soit une souffrance psychologique, une souffrance physique, avec la maladie notamment. Que ce soit une souffrance émotionnelle avec les conflits qu'on peut avoir, les difficultés qu'on peut parfois rencontrer dans nos familles, dans nos couples, dans nos relations interpersonnelles, la Bible va nous dire de nous préparer, de nous armer de la pensée de souffrir. Alors pour nous, pour ne pas être dévastés lorsque la tempête vient, pour ne pas être désemparés lorsque le vent se lève et lorsque le tourbillon fond sur nous, voilà pourquoi il est important de se préparer. Je dis souvent qu'on ne se prépare pas à la tempête lorsque la tempête est sur nous. On doit se préparer au niveau de notre attitude, au niveau de notre conduite, au niveau de notre engagement, au niveau des choses qu'on veut voir durer, perdurer et être solide en nous. On se prépare à ces choses-là ou on se prépare avec ces choses-là avant que la tempête n'arrive. Pourquoi? Parce que si on n'est pas prêt, que la tempête fonce sur nous, on va être ballotté par les vents, un peu comme les disciples qui ne se sont pas préparés à la tempête et qui, une fois en pleine traversée avec Jésus, vont craindre de périr. Jésus, lui, sait qu'il a autorité sur la tempête, n'a aucun doute, à la foi parfaite, et se lève pour calmer le vent, puis reprend ses disciples en leur disant qu'ils ont été des hommes de peu de foi. Donc régulièrement, lorsque nous cédons, lorsque nous trébuchons face à la tempête, c'est justement parce qu'on n'a pas pris le temps de bien se préparer. Cette semaine, c'est ce que nous étudions. Comment nous préparer à la tempête? Tout d'abord, avec l'idée, avec la pensée, avec la connaissance que parce que nous sommes de ce côté-ci de l'éternité, nous sommes sujets à des turbulences dans notre vie, nous sommes sujets à des difficultés dans notre vie, et il faut s'y préparer. Et deux éléments importants de surcroît au manteau, deux éléments importants que Paul va demander à Timothée d'amener vers lui. Je relis pour vous le verset 13. « Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus, et les livres, surtout les parchemins. » Et les livres, surtout les parchemins. Et je répète encore, et les livres, surtout les parchemins. Lorsqu'on regarde livres et parchemins et qu'on ne va pas dans l'étude de ce qu'ils représentent distinctement, on pourrait penser que Paul ne parle que d'une seule et même chose, d'un item similaire qui serait différencié, on va dire, tout simplement par le média sur lequel il est écrit. Donc certains vont regarder livres et parchemins et vont penser qu'on ne parle que de l'Ancien Testament ou des livres de l'Ancien Testament. Et oui, Paul en parle, mais Paul ne parle pas que de cela. Lorsqu'il parle de livres, c'est le terme grec biblion, B-I-B-L-I-O-N. Je répète, biblion pour livre, B-I-B-L-I-O-N. Et de celui-là, de ce mot grec, est sorti des mots de la même famille, avec bibliothèque, avec librairie, avec Bible aussi. Et la Bible, c'est quoi? C'est une bibliothèque de livres. C'est un ensemble de livres. Effectivement, Biblion était un petit livre. C'était un parchemin, un document écrit. C'était une feuille sur laquelle quelque chose avait été écrit. C'était un acte de divorce qui pouvait être appelé Biblion. C'était un acte légal, un document légal. Mais lorsqu'on utilisait Biblion dans le contexte du Nouveau Testament, on parlait particulièrement de livres sacrés ou de textes bibliques. Alors Paul était en train de dire « la tempête arrive, j'ai besoin de mon manteau, donc j'ai besoin de me préparer à la tempête ». Et une des meilleures préparations pour la tempête, c'est effectivement de se nourrir, de se plonger dans la parole de Dieu. Et ici, Biblion veut effectivement parler de ces livres que Paul avait à l'époque, qui étaient les livres de l'Ancien Testament, donc des rouleaux ou des amalgames, des rassemblements de livres de l'Ancien Testament. Une façon de passer à travers la tempête, c'est donc de s'ancrer dans la parole de Dieu. Et s'ancrer dans la parole de Dieu se fait avant la tempête, encore une fois. Tous ceux dont on parle cette semaine, ce sont des prérequis, ce sont des mises en garde ou des conseils que nous nous devons d'appliquer avant que la tempête arrive. Comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsque la tempête arrive, on a les idées qui partent à droite et à gauche et on peut ne pas avoir le réflexe de se retourner vers la parole de Dieu. De surcroît cela, si on ne s'est pas nourri adéquatement, si notre carquois est avide, si notre gibecière spirituelle est avide, ben sur quoi allons-nous nous fonder lorsque la tempête va tomber sur nous? Voilà pourquoi il est important d'avoir une hygiène de vie spirituelle qui nous permet ou qui nous amène à nous nourrir quotidiennement. La Bible nous dit que c'est de l'abondance du cœur que les lèvres s'expriment. Si effectivement, lorsque tout va bien, je suis en train de me nourrir spirituellement, et croyez-moi, on ne peut pas faire d'excès de table avec la parole de Dieu. On se nourrit, on se nourrit, on se nourrit, on se remplit de cette parole, mais on ne le fait jamais à outrance. On ne peut pas faire d'indigestion de la parole de Dieu. C'est quelque chose qui nous fait du bien. Si on se nourrit adéquatement de cette parole, le jour où les efforts sont nécessaires, le jour où cette parole deviendra encore plus nécessaire que de la normale, eh bien, on aura une réserve en nous. Je dis parfois, j'explique que je me rappelle d'un cantique de quelqu'un que j'aimais bien entendre chanter à l'époque, qui s'appelle Don Francisco. Alors ma sœur et mes parents sauront que j'écoutais, ou se rappelleront que j'écoutais régulièrement cet artiste chrétien à l'époque. Et il avait une chanson qu'il précédait de quelques explications. Et il disait qu'il appréciait beaucoup Josaphat. le roi Josaphat. Pourquoi? Parce qu'il disait, lorsque la tempête est venue, lorsque les armées ennemies se sont liguées contre lui, il n'a pas eu à chercher à droite et à gauche, devant, derrière, dans la parole de Dieu, pour essayer de trouver un verset qui correspondait à sa situation du moment présent. Il savait ce que la parole de Dieu disait. Régulièrement, lorsque la tempête tombe sur nous, ben là, on est en train de feuilleter la Bible à droite, à gauche, pour essayer de trouver un verset qui pourrait expliquer, un verset qui pourrait s'adapter à notre situation. Josaphat avait assez de réserves. Je prends une gorgée. Assez de réserves bibliques dans sa gibecière qu'il savait quel verset sortir et quel verset élever devant Dieu comme prière. Pour nous, trop souvent, malheureusement, il arrive que on essaie à la dernière minute, au dernier instant, quand il est déjà en plein cœur de la tempête, on essaie de trouver réconfort dans la parole de Dieu, alors que celle-ci nous apaiserait lorsqu'on voit le ciel s'assombrir, nous garderait calme lors des premières gouttes et nous donnerait l'assurance d'arriver à bon port si on avait préalablement effectivement bien étudié la parole de Dieu. Alors Paul va dire et va mettre une emphase toute particulière au niveau de s'ancrer dans la parole de Dieu. C'est une importance capitale pour ta vie et pour ma vie. Il est important d'avoir cette base quotidienne. Certains vont dire la bénédiction matinale le fait. Je suis flatté que vous trouviez que ce soit effectivement un outil profitable pour vous, mais je dirais que cet outil-là n'est pas suffisant en soi. Nous devrions nous nourrir adéquatement. On se nourrit minimum 3 fois, même minimum. Certains comme moi vont plutôt aller vers un repas par jour, et c'est peut-être pas nécessairement très bon pour la santé. Il faudrait peut-être opter pour plus de petits repas plutôt qu'un gros en fin de journée. Mais peu importe, on va se nourrir, la plupart vont le faire 3 fois par jour. Pourquoi alors se nourrirait-on tout simplement avec un seul repas par jour spirituellement? Pourquoi, et là c'est grave, pourquoi en tant que chrétien accepterais-je de me nourrir une seule fois par semaine lorsque je vais à l'église le dimanche matin? Ou 2 fois en comptant l'étude biblique du mercredi? Vous comprenez que quelqu'un qui fait ça sur une semaine ou deux, ça peut aller. Mais quelqu'un qui ferait subir à son corps physique ces absences d'apport nutritif sur une trop longue période de temps, ben il en sentirait les effets. Assurément, il perdrait du poids, puis peut-être il deviendrait svelte. Mais plus grave, c'est que si ça perdure, ben il va pas devenir simplement svelte, il va devenir maigrichon, voire rachidique. Ses muscles vont s'atrophier. Son cœur, qui est un muscle aussi, va s'atrophier. Donc, à ne pas se nourrir adéquatement physiquement, on en a des conséquences, mais à ne pas se nourrir spirituellement de façon adéquate, on en a aussi des conséquences. Et voilà pourquoi Paul va dire, j'ai besoin, alors que je suis dans une période difficile, alors que je fais face peut-être au plus grand dilemme de mon existence ou à la plus grande tempête de ma vie, j'ai besoin de me nourrir. Alors il dit à Paul, à Timothée plutôt, amène les livres, amène les textes sacrés que j'ai laissés à Troas, chez Carpus, parce que j'en ai besoin maintenant même. Le grand Paul, certains que dans leur Bible, on a Saint Paul même. Alors l'apôtre Paul, l'auteur de la majeure partie des écrits du Nouveau Testament. Quelqu'un qui avait étudié la parole et étudié la théologie au pied de Gamaliel, un des grands docteurs de la parole de son époque. Paul dit, j'ai encore besoin d'étudier la parole de Dieu. Je me rends compte plus je prêche avec les années, plus j'ai besoin encore d'étudier la parole de Dieu. Je me rends compte que plus j'étudie la parole de Dieu, moins je la connais en fait. On a cette prétention très puérile, très enfantine, d'étudier la Bible, de la lire et de croire qu'on la connaît au complet. Plus on l'étudie, en tout cas dans mon cas, plus je l'étudie, plus je me rends compte qu'elle renferme une multitude de connaissances, de sagesse qui ne peuvent être acquises qu'avec le temps, qu'avec la répétition, qu'avec la compréhension. Tout à l'heure, simplement pour vous illustrer la chose, tout à l'heure, et ça fait 5 semaines que je répète 5 ou 6 fois par semaine cette lecture, et tout à l'heure, il y a 2 mots qui m'ont sauté à la figure lorsque j'étais en train de lire pour vous, et je vais aller les étudier tout à l'heure. Il y a un verset où Paul va dire 2 choses qui semblent similaires, et je veux aller voir pourquoi dit-il ces synonymes qui ne sont peut-être pas en grec aussi synonymes. Alors vous voyez, on se nourrit, et plus on se nourrit, plus on se rend compte que cette parole est riche et qu'on en a besoin. Plus encore lorsqu'on sait que la tempête arrive. Alors encore une fois, on prend le manteau, oui, mais on prend aussi donc le manteau, la pensée de souffrir, s'armer de la pensée de souffrir, mais de surcroît à cela, on prend les livres, on s'ancre, on s'arraisonne plutôt à la parole de Dieu. Dernier point aujourd'hui, un mot qui semble être dans nos langages ou dans nos paroles contemporaines, qui semble être un synonyme, mais qui ne l'est pas dans le grec. Il dit « amène-moi les livres et les parchemins ». Et très souvent, on fait l'erreur de croire que les livres et les parchemins, c'est la même chose. Le parchemin, c'était une espèce de feuille fabriquée d'une membrane de cuir. On appelait ça parchemin parce que c'était fait, les meilleurs étaient faits plutôt dans la ville de Pergame. Donc parchemin, Pergame, ou des feuilles qui sont faites à Pergame. Parchemin se dit en grec membrana, membrana. Donc M-E-M-B-R-A-N-A. M-E-M-B-R-A-N-A, de membrane en français. Pourquoi? Parce que c'était fait à base d'une membrane, à base d'un cuir qui avait été tendu, qui avait été séché, qui avait été aminci pour en faire pratiquement une feuille de papier. Que faisait-on avec ces parchemins? Les parchemins étaient essentiellement utilisés pour la rédaction de lettres ou d'écrits épistolaires, donc de lettres qu'on envoyait. Et c'était sur ces membranes que Paul écrivait des lettres, particulièrement celles qu'on lit ce matin dans 2 Timothée. C'était écrit sur une membrane, c'était écrit sur un parchemin, c'était écrit sur cette feuille faite à base de cuir pour que ça dure plus longtemps que celle qui était faite à base de bois qui avait été compressé, qui avait été réduit en poudre et par lequel on avait fait du papier. Donc ici, lorsqu'on parle d'un parchemin, on parle de ces choses que Paul va écrire pour envoyer à l'Église et s'assurer que ce soit envoyé, que cela reste solide. Donc Paul était en train de dire, la tempête arrive. J'ai besoin d'un manteau. J'ai besoin aussi de me nourrir de la parole de Dieu. Mais en dépit de la tempête, j'ai besoin aussi de rester actif dans mes écrits et dans ce que je fais pour le service envers l'Église. Rappelons-nous, Paul va bâtir des églises. Donc à partir du jour où il est appelé depuis l'Église d'Antioche, où Dieu va envoyer une prophétie, un oracle, qui dit « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Il va partir d'Antioche, aux villes à laquelle il va revenir après chacun de ses voyages. Et il va démarrer, tout au long de ses périples, trois en tout, il va démarrer des églises. Donc pendant tous ses voyages, il va proclamer l'évangile, il va y avoir des conversions. Ces conversions vont se transformer en démarrage d'églises avec les nouveaux convertis. Paul va rester dans chacune de ces églises un certain temps, puis il va quitter, appointer un leader pour le remplacer alors qu'il quitte, voire envoyer après coup un leader qui sera à même de réparer certaines choses, de mettre à jour certaines connaissances ou de rectifier certaines pratiques dans l'Église. On le voit notamment avec Timothée qu'il va envoyer non seulement à Corinthe, mais qu'il va aussi envoyer à Éphèse. On le voit à propos de Tite. Dans ce passage, on voit que Tite va être envoyé en Dalmatie, que Crescens est allé en Galatie, qu'il a envoyé Tychique à Éphèse. On va voir qu'il a envoyé Éraste à Corinthe et qu'il a laissé Trophime à Milet. Chacune de ces villes représente des églises où Paul a envoyé des gens. Mais de surcroît à cela, avec les épîtres qu'on a, ou les lettres épistolaires que Paul va avoir envoyées, on va se rendre compte qu'il envoie des lettres avant qu'il n'arrive à Rome, qu'il envoie des lettres aux chrétiens de Rome, qu'il va envoyer des lettres à Corinthe, à Galate, à Éphèse, dans la ville de Philippe, dans la ville de Thessalonique, donc en Galatie, il va envoyer chacune de ces lettres par quoi ? Par des parchemins, par des membranes dans lesquelles il a gravé, il a imprimé ses lettres, ses connaissances, ce que Dieu lui avait inspiré. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Quelle est la leçon pour nous? Mais ça veut dire que Paul continuait à être utile même en vue de la tempête, voire il continuait à être productif en dépit de la tempête. Malheureusement, trop de chrétiens ne sont utiles pour le Seigneur que lorsque tout va bien. Trop de chrétiens décident ou acceptent de travailler pour Dieu quand tout va bien. Mais quand la tempête survient, ben là, on ferme boutique et puis on tombe en hibernation pendant le temps de la tempête. Si c'est le cas, ben le diable va s'arranger pour que la tempête dure longtemps. Le diable n'est pas bête, le diable est rusé. Donc, s'il sait que toi, en tant que serviteur de Dieu, tu cesses de travailler lorsque les choses deviennent difficiles, lorsque le climat ne s'y prête pas, ben, il va s'arranger pour qu'il y ait des tempêtes dans ta vie. Paul va dire, regardez, moi, je suis utile à Dieu quand tout va bien. Je suis utile à Dieu quand tout va mal. Paul va l'exprimer en disant, quelle tribulation n'ai-je pas affrontée? Quelle situation difficile n'ai-je pas affrontée? J'ai servi Dieu dans l'abondance, comme dans la disette. J'ai servi Dieu lorsque tout allait bien. J'ai servi Dieu lorsqu'on s'opposait à moi. J'ai servi Dieu quand tout le monde était positif. J'ai servi Dieu quand tout le monde se liguait contre moi. Il va dire à Timothée, insiste, en toute occasion, favorable ou non. Donc les mêmes pratiques que Paul avait, il va les exhorter, il va les enseigner, il va les propager chez ses bras droits, voire ses successeurs comme Timothée. Et pour nous, ce doit être aussi une prérogative. Savoir que nous devons nous armer, oui, de la pensée de souffrir, nous nourrir en vue de la tempête, mais de surcroît à cela, maintenant que les choses vont bien, prenons déjà la décision que lorsque les choses iront moins bien, nous continuerons à être utiles et productifs pour le royaume de Dieu. Pourquoi ? Parce que parfois, effectivement, les circonstances difficiles sont des occasions pour nous que Dieu ouvre afin qu'on atteigne des gens qu'on n'aurait pas atteints autrement. J'ai pu parler à des infirmières que je n'aurais jamais rencontrées, à moins d'avoir été malade. J'ai pu témoigner à des médecins que je n'aurais jamais rencontrés, n'eût été la maladie. Vous savez qu'à chaque année, depuis maintenant quelques années, on me demande, c'est le médecin de Daphné qui me demande, de participer à un colloque avec l'Université McGill et son campus qui est aussi à Gatineau, maintenant à distance, où on me demande de raconter mon histoire et de dire comment la foi a été importante dans ma période de maladie et comment la foi est venue influencer ma relation avec le corps médical et avec les médecins qui étaient autour de moi. Mais cette porte ne se serait jamais ouverte pour moi afin de partager mon expérience et par conséquent, puisque je suis chrétien et que je suis un peu rusé, de partager le message de l'Évangile, le message de Christ, cette porte ne se serait pas ouverte, n'eût été la maladie. Alors parfois Dieu utilise des circonstances difficiles, désagréables voire même, pour nous amener à être utiles dans de nouvelles dimensions et pour atteindre des gens que nous n'aurions jamais pu atteindre si ce n'avait été à travers nos circonstances difficiles. Arrêtons de voir les circonstances difficiles, les tempêtes, tout simplement comme un moyen de nous détruire. C'est nous qui acceptons d'être détruits ou non. Par mes décisions, par mes prises de position, j'accepte de capituler et de céder face à la tempête ou de rester ferme et de continuer à être productif pour Christ. Pourquoi est-ce que je peux dire que c'est nous qui acceptons d'être défaits par la tempête et non pas la tempête qui nous défait? Parce que la Bible nous dit que par lui, je puis tout. Qu'à travers Christ, je peux toute chose. Qu'à travers l'Esprit de Dieu à travers moi, en moi, je suis assez fort pour vaincre toute chose. Alors s'il me rend capable, s'il me rend assez fort, s'il me rend apte à affronter ces tempêtes, si je ne le fais pas, ce n'est pas la faute de Dieu. Ce n'est pas faute de puissance, ce n'est pas faute de capacité, ce n'est pas faute d'outils. C'est faute de décision personnelle. Mais ces décisions, je crois personnellement qu'elles doivent être prises aujourd'hui où les choses vont bien, avant que la tempête ne se déclenche. C'est aujourd'hui que je décide, si la tempête arrive, voici ce que je vais faire. C'est aujourd'hui où je décide, quand la tempête va venir, voici comment je vais réagir. Voici ce que je vais faire. Paul disait, la tempête s'en vient. Je fais face à la mort. Amène-moi mon manteau. Amène-moi les livres bibliques. Amène-moi du parchemin pour que je puisse continuer à écrire et à bénir l'Église et à être productif, même face à la mort. Nous sommes, nous aussi, dans un même dilemme. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain, dans un mois, dans un an, dans 10 ans, que sais-je. Mais tu affronteras éventuellement une période de tempête. La décision de ce que tu vas faire, la décision de ton rendement lors de la tempête se prend aujourd'hui. Décide de continuer à être productif et arme-toi pour continuer à être productif en dépit de la tempête. Et à cela, nous disons Amen. Alors Seigneur, nous te bénissons pour ce temps, nous te bénissons pour cette occasion que tu nous as donné d'analyser notre parcours et surtout de nous préparer face à la tempête. Nous préparer en nous inondant de la parole de Dieu, en plongeant dans ta parole, en nous abreuvant, en nous nourrissant adéquatement de ta parole, mais de surcroît à cela, en prenant la décision qu'en dépit de la tempête, nous resterons productif, actif et utile pour l'avancement de ton royaume. On comprend, Seigneur, que cette décision se prend aujourd'hui. On comprend que cette décision se prend maintenant, que les choses sont peut-être plus calmes, que les jours sont peut-être un peu plus doux. C'est aujourd'hui qu'on prépare l'hiver, c'est aujourd'hui qu'on prépare la tempête, c'est aujourd'hui qu'on prépare les moments difficiles. C'est aujourd'hui où on s'arme de cette pensée d'être utile, productif, rentable, profitable pour le royaume de Dieu, même lorsque les choses iront moins bien. Alors merci Seigneur de ces conseils, Merci de ces avertissements. Merci Seigneur de ces pré, de ces de ces oui avertissements que tu nous donnes. Merci Seigneur de ces mises en garde plutôt que tu nous donnes, afin Seigneur que lorsque la tempête arrive, nous ne soyons pas désœuvrés, que nous ne soyons pas désorganisés, que nous ne partions pas ballottés par les flots et par les vents, mais qu'on puisse effectivement tenir ferme dans notre direction, tenir ferme dans le chemin que tu ouvres vers nous, et qu'il n'y ait pas de baisse de rendement. Parce que notre objectif est d'être utile pour l'avancement du royaume de Dieu. Alors bénis ma sœur, bénis mon frère, réconforte-les s'ils passent par des moments difficiles. Puisses-tu, Seigneur, les raisonner pour qu'ils puissent s'accrocher à toi et continuer à œuvrer. Parle-nous, utilise-nous, surprends-nous par même la provision que tu nous accordes dans les moments difficiles. Nous t'avons prié dans le précieux et glorieux nom de Jésus. Amen. Alors voilà ce qu'on avait pour ce matin. On vous rappelle qu'on a rendez-vous ce soir à 19h pour l'étude biblique. On vous invite vraiment de tout cœur à être là en présentiel ce soir, directement à l'église. Et pour ceux qui sont au loin, bon, ben, vous pouvez toujours nous suivre parce que vous êtes au loin. Mais si vous êtes près de l'église, si vous êtes à Montréal, faites l'effort. Ça nous encourage, mais ça nous fait du bien aussi de pouvoir célébrer le Seigneur tous ensemble. À partir de 19h, même les portes ouvrent bien avant ça. Si vous voulez prendre du temps dans la prière, dans la communion fraternelle, il y a toujours des frères et des sœurs qui arrivent avant l'heure. Donc, soyons là, 19h depuis l'église, sinon, oui, sur Internet. Alors, sur ce, que Dieu vous bénisse, on se retrouve demain matin pour la suite des choses. Qu'est-ce qu'on voit demain? On voit le verset 17 avec trois éléments qui nous sont importants et qui nous sont mentionnés dans le verset 17. Alors sur ce, que Dieu vous bénisse, et puis à ce soir à l'église, sinon à demain matin pour notre bénédiction matinale. Au revoir tout le monde.